Avoigny. Cette semaine, Guillaume Erner rencontre Jean-Claude Michéa. Ce soir, la décroissance landaise.
Jean-Claude Michéa, bonjour. On se retrouve pour un cinquième entretien. Je rappelle que vous avez été professeur de philosophie, puis philosophe, hein, puisque c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui a publié 12 ouvrages de philosophie. On vous a suivi à Paris où vous êtes né, à Montpellier où vous avez enseigné, et puis maintenant dans les Landes. Depuis 2 ans, vous habitez dans un coin qui est un coin extrêmement rural, avec une philosophie de vie proche de la décroissance. Vous êtes écologiste ?
Ça, c'est une question, je ne sais pas répondre, parce que qu'est-ce qu'on appelle écologiste ? Si vous voulez dire, est-ce que j'ai un rapport à la nature qui joue dans ma critique du capitalisme ? Est-ce que le fait de manger une tomate de son propre jardin, comparé à celle qu'on achetait même chez les magasins bobos, on comprend qu'il y a deux mondes différents, et que si le rapport à la nature, c'est ça, il engendre aussi un regard critique sur le monde. Ce rapport, je l'ai. J'ai toujours été, bien que urbain, parisien et montpelliérain, quelqu'un qui, nostalgie peut-être de l'époque des grands-parents en Bourgogne, la campagne a toujours été pour moi quelque chose, mais de nécessaire et d'indispensable, au point de me ridiculiser aux yeux d'une fille de maraîcher vietnamien lorsque sur le balcon de Montpellier, je faisais pousser des tomates cerises ou autres, que j'avais l'impression d'être devenu un agriculteur urbain et qu'elle me regardait avec une ironie non exempte d'un certain mépris.
Mais alors, par exemple, est-ce que vous êtes favorable à réintroduire le loup, l'ours?
Là, c'est une des plaisanteries d'écologistes urbains. Alors, le contact avec la nature, une chose est de l'aimer pendant les vacances, une chose est de la lire dans les livres, mais quand vous allez être non pas un résident secondaire ou un touriste en vacances, mais quelqu'un dont c'est désormais l'horizon de vie quotidien, vous apprenez en 2 ans plus que dans toute votre vie. La première chose que j'apprends, c'est pourquoi les Grecs appelaient la nature « physis ». Fusil, c'est ce qui prolifère, croît, part dans tous les sens. Et là, effectivement, au bout d'un mois, les ronces sont partout, les bambous avancent. Le bambou, c'est la plaie, hein, partout où des gens ont eu l'idée saugrenue de l'introduire, parce que le bambou, c'est la métaphore du capitalisme. Il pousse des métastases, ça peut pousser de 50 cm chaque nuit. C'est rhizomatique et deleuzien au possible, et il faut tous les jours, passer 1 heure à exterminer les bambous, qui sinon vont tout envahir. Donc c'est un travail de régulation permanent. Hein, vous comprenez que c'est pas simplement le... Enfin si, c'est le jardin, mais le jardin est travaillé. La nature, hein, il va falloir porter un regard toujours entre appuyer ce qui doit être appuyé, s'extasier devant ce qui appelle l'extase, mais aussi se défendre contre ce qui peut menacer, réguler. Et quand on arrive au cas particulier des animaux, bon, moi, j'ai jamais été chasseur dans l'âme, ni avide de corrida, parce qu'étant parisien et montpelliérain, où nous croisons rarement des ours, des vaches et tout au centre-ville, ma vision de l'animal est au départ celle des studios à Disney. Et j'ai au fond... Pas dans mes idées dès le début, j'avais bien compris que cette image était tout à fait discutable, mais en tant qu'urbain, moi-même, j'étais bien obligé de reconnaître que j'avais cette sensibilité Brigitte Bardot, hein, ou Rémi Gaillard, parce que l'animal, je le voyais que sous la forme de l'animal de compagnie, le chat, pour moi, et ou au contraire de l'animal Walt Disney. Et seulement quand vous êtes dans la campagne et la nature, tout change. Non pas que cette sensibilité disparaisse, je ne peux pas voir souffrir un animal. Sauf que à cette sensibilité, elle s'agrège à d'autres sensibilités correspondant au nouveau contexte, au nouveau mode de vie. Quand Linda et moi, au bout de 2 mois, nous sommes tombés sur notre première petite taupe, on l'a recueillie dans nos mains, et je vous assure, parisien urbain, il n'y a rien de plus beau et d'émouvant qu'une petite taupe. On a dit, on va pas la tuer. Donc je l'ai portée à 400 mètres. Évidemment, le jour suivant, elle était revenue et commet des dégâts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois être végane et manger des fruits et légumes et laisser les taupes le faire. Ne serait-ce que d'ailleurs que dire « Ah mais moi je respecte la vie animale, je ne mange que des fruits et légumes ». Mais est-ce que tu sais, pour produire des fruits et légumes, le nombre de vivants que je dois éloigner, exterminer de la limace et autres, les dégâts commis par les chevreuils qui passent, puisque quand on habite là où j'habite, on voit passer des biches et des chevreuils devant les fenêtres régulièrement, et surtout les sangliers. Si sa population n'est pas régulée, amène les tiques et la maladie de Lyme, qui est une des maladies qui se développe de plus en plus, il commet des dégâts, parlons pas potager, un sanglier qui fonce, nous avons régulièrement, depuis qu'on est là, on a vu 2-3 accidents de voiture, parce que quand vous rentrez la nuit et que vous avez 3 sangliers qui vous rentrent, la voiture, c'est bien si vous-même vous en sortez. Et donc, s'il n'y a pas les chasseurs qui viennent, avec des normes précises, réguler la population des sangliers, et le syndrome Rémy Gaillard, Bougrain du Bourg et tout, a fait que pendant quelques temps, les bobos urbains ont tout fait pour nuire aux chasseurs. Résultat, à Mont-de-Marsan, maintenant, dans les jardins de l'hôpital, les sangliers arrivent partout, et les gens comprennent, enfin, les animalistes intelligents commencent à comprendre. Mais il y en a qui comprendront jamais, puisque j'ai appris qu'à Paris, il y a des dissidences du mouvement animaliste qui protestent contre la dératisation comme étant un crime qui nous rappelle les heures les plus sombres de l'humanité. Donc quand on en arrive là, mais quand vous êtes face à ces animaux, qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire, je suis entouré de Parisiens ici, que de pouvoir manger des cerises sur son cerisier. Donc l'an dernier, bonheur. Sauf qu'au bout de 3 jours, il n'y a plus une cerise, parce que les étourneaux ont, en 3 jours, tout nettoyé les arbres fruitiers. Alors là, vous allez dire, est-ce qu'on va y aller au voilage, avec des moustiquaires pour oiseaux? Est-ce qu'il faut mettre des... Mais à un moment, il faut éloigner les oiseaux. Et puis, à un certain moment, il y a des gens qui disent, quand le nombre est tel, il va falloir faire de l'anti-Bougrain du Bourg, parce que sinon, c'est un choix. Ou bien, Bougrain du Bourg, fidèle à tes traditions de la noblesse du 15e siècle, tu fais tout pour sauver nos oiseaux, mais tu manges jamais de fruits. Ou alors, c'est que toi, tu as un élevage à part, etc. Mais on peut pas faire les deux choses en même temps. Et voilà comment moi, celui qui a 69 ans bientôt, je n'ai jamais voulu revoir Bambi. En même temps, je comprends. On se salue maintenant avec les chasseurs. D'ailleurs, vous savez, quand vous rentrez dans un village, le premier test, c'est... les chasseurs, c'est la colonne vertébrale. Et c'est jamais des barbares, des nazis autres. C'est des paysans. Au début, c'était pour manger, etc. Bon, le droit de chasser était interdit sous la monarchie, pour les gens du tiers d'État. Et puis, quand ils viennent vous demander, est-ce qu'on peut passer à la saison des chasses sur la propriété de votre ferme pour chasser le sanglier, etc., faire des battues, et que vous comprenez les dégâts, les menaces, etc., vous dites bien sûr. Et alors, à ce moment-là, vous savez que ça vous revient dans le village. Ah, eux, c'est pas des Parisiens. Ils sont pas fiers. S'inquiète, ceux-là, on peut... Et du coup, vous êtes invités et tout. Et votre intégration progresse à une allure extraordinaire. Mais si vous allez dans un village pour protester contre le chant du coq, le chant des cigales ou parce qu'il y a une église qui sonne, à ce moment-là, ne vous étonnez pas si les villageois ne vous accueillent pas avec joie. Et vous écrivez un livre, ce sont des gens refermés sur eux-mêmes, racistes, xénophobes, alors qu'on est venu déranger leur mode de vie comme un colon du 19e siècle.
Est-ce que l'on peut considérer, puisque donc vous... Vous évoquez à la fois donc un terroir, une manière de vivre campagnarde. Est-ce qu'on peut considérer alors que vous êtes conservateur? Vous avez dit tout à l'heure, moi je ne suis pas conservateur. Mais on ne peut pas dire non plus que vous soyez progressiste. Où est-ce que vous vous situez, Jean-Claude Michéa?
Alors progressiste, certainement pas, puisque le progrès c'est lié à une marche automatique en avant qui s'accomplit qu'on le veuille ou non. Que vous le vouliez ou non, la Silicon Valley est notre avenir. Que vous le vouliez ou non, le nucléaire devra continuer, etc., etc. Il faut que la population humaine croisse de façon exponentielle pour qu'on assure le régime des retraites, etc. Tout en disant d'ailleurs, le drame de l'Afrique, c'est qu'il y a trop... Bon, allez, on entend toujours tout et son contraire. Mais le progressisme, c'est l'idée d'une marche automatique en avant. Seul quelqu'un de réactionnaire pourrait s'opposer à la mondialisation. Elle est dans le sens de l'histoire. Là, je suis très orwellien en disant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce mouvement est un mythe, ce sont les hommes qui font l'histoire. Il y a d'ailleurs des moments dans l'histoire où, quand on passe de l'Empire romain au Moyen-Âge, la démographie chute, des inventions disparaissent, d'autres pas. Il n'y a pas une ligne continue. C'est simplement la projection du schéma occidental sur l'ensemble de la planète et enveloppé dans l'idée que l'homme est la marionnette d'un destin, d'un dieu qu'on appelle le progrès. Ce qui ne m'empêche pas de dire que si progrès, c'est précédé d'un article indéfini, est-ce que la machine à laver est un progrès? Est-ce que le téléphone portable est un progrès? C'est au cas par cas. On va se demander, est-ce que ça m'humanise? Est-ce que ça me déshumanise? Et donc, les innovations, on les analyse. On les valide au terme d'un jugement philosophique, et non pas parce que, de toute façon, on peut pas faire autrement. Vous voyez, ça, c'est logique. Alors, évidemment, à partir du moment où, pour vous, le tout pas en avant n'est pas forcément un pas en avant dans la bonne direction, vous allez dire à certains moments, mais quand je vois les pesticides qu'utilisent Bayer et Monsanto, et quand je vois qu'on n'avait pas besoin d'engrais et de pesticides autrefois, parce que dans l'agriculture paysanne, il y avait le complexe élevage, forêt et agriculture, et que ça formait un cercle où le lisier des uns faisait le limon de l'autre, etc., et on est en train de redécouvrir ce cycle maintenant, on dit bah c'était mieux avant. Mais attention, si vous dites, si je dis, quand même, moi, dans mon enfance, à Paris, dans les années 50, quand un nourrisson respirait, ça équivalait pas à 2 cigarettes par jour. Quand même, du point de vue qualité de l'air, c'était mieux avant. Et là, vous avez devant vous le métropolitain qui a hoché la tête en « oui, c'était mieux », puis qui s'arrête. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire « c'était mieux avant ». Mais est-ce que je suis pas en train de basculer du côté obscur de la force? Est-ce que le nazisme en moi, la bête immonde ne se réveille pas? Et à un moment donné, vous comprenez que dire sur ce plan, c'était mieux avant, c'est comme dire, mais le Christ n'est pas le fils de Dieu, hein, au Moyen-Âge. C'est le blasphème absolu. Donc si l'on veut, l'idée n'est pas de dire je suis conservateur, progressiste, réactionnaire. C'est de dire que à partir du moment où la logique du capitalisme, c'est un processus exponentiel de développement permanent. C'est la reproduction élargie du capital. Il faut toujours plus, dans tous les domaines, toujours changer pour que ce système progresse et envahisse la planète. Il est évident que si vous êtes progressiste au sens « tout pas en avant va dans la bonne direction », vous n'arrivez plus à distinguer « on n'arrête pas le progrès » de « on n'arrête pas le capitalisme ». Et ça, c'est les malheurs de la gauche. Mais du coup, si vous cassez cette équation, il y a forcément, dans le socialisme, ce que j'appelle un moment conservateur. Je me suis jamais dit une seule fois conservateur, sinon dans la boutade anarchist story, comme Orwell. Mais souvent, et j'ai beau le dire, ça doit être la millième mille au point que je fais devant un micro, ou devant un journaliste par écrit, jamais une seule fois, je ne me suis défini comme conservateur. Je dis simplement, il y a un moment conservateur, il y a des choses dans l'héritage culturel, économique du passé qui doivent être conservées, des ressources, et c'était la vision d'ailleurs des socialistes non marxistes au XIXe siècle, qui allaient me chercher du côté du Moyen-Âge, William Morris et autres, les autonomies municipales et autres, des éléments pour le socialisme futur.
Il se trouve que ce côté anti-progressiste, anti-moderne chez vous, a été souligné, notamment par Daniel Lindenberg, c'était en 2002, et du coup, vous avez été rangé parmi les néo-réactionnaires, ce qui n'est pas une étiquette méliorative, comme on peut l'entendre, les néo-réacs, et vous êtes rangé parmi donc différentes personnalités qui vont d'Alain Finkielkraut à Marcel Gauchet. Votre sensation lorsqu'on vous dit que vous appartenez à cette nébuleuse, Jean-Claude Michel?
C'est une excellente question, Guillaume Erner, et je vous remercie de l'avoir posée. Il y a une chose, vous avez parlé de Lindenberg, c'était pas notamment, Lindenberg c'est le début de l'opération. Quelqu'un qui relirait aujourd'hui tous les textes que j'ai écrits au début, Orwell, Anarchist Story, l'enseignement, l'ignorance, même jusqu'à la passe Adam Smith, je dis quasiment la même chose. Parce que je fais partie de ces gens. En philosophie, il y a deux types de philosophes. Il y a les philosophes comme Deleuze, dont je condamne la philosophie, mais dont je trouve que la lecture est une des plus savoureuses. C'est un des plus grands philosophes de ce point de vue-là. Il peut écrire sur tout. Hein, le pli chez Leibniz, l'expression chez Spinoza, il peut écrire sur le surf, sur n'importe quoi. Chaque livre est sur un nouveau sujet. Puis il y a les auteurs à la René Girard qui creusent un sillon toujours plus profond en parlant, c'est toujours le même livre, mais approfondi. Je suis par tempérament, ou pour toute autre raison, dans une écriture à la Girard. Ce qui fait que les livres d'aujourd'hui développent le logiciel mis en place il y a près d'un quart de siècle. Jusque avant l'opération de la Fondation Saint-Simon et de l'opération Lindenberg, vous lisez la presse de gauche, je suis tout à fait dans le move, un auteur anarchiste qui mêle les influences, c'est très intéressant, etc. Et qu'est-ce qui va se passer dans les années 90, c'est l'effondrement du système soviétique qui va devoir rabattre toutes les cartes. Avant, tant que Brejnev était là, tant que l'Union soviétique existait, toute critique du capitalisme était manipulée par la main de Moscou, et c'est le maccartisme, au fond, qui a duré longtemps, et allait nous réintroduire le goulag. Et ça, c'est la ligne politique, la nouvelle philosophie. C'est ça qui marche très bien jusqu'à l'effondrement progressif du bloc soviétique. Et puis, dans les années 90, cet effondrement, cette disparition, pose un grave problème aux idéologues du système. Toutes ces think tanks, dont la Fondation Saint-Simon de Rosanvallon, qui jouent un rôle fondamental. Rosanvallon est par ailleurs le libéral le plus intelligent et le plus érudit, j'adore le lire, que je connaisse. Mais bon, c'est un homme qui est passé du côté obscur de la force et qui a compris qu'au fond, son destin personnel passait par la mise au service du capitalisme de sa propre intelligence. Il est dans la Fondation Saint-Simon et il cherche. Mais on peut plus dire c'est la main de Moscou. Moscou n'a plus de main. Alors, surtout que c'est la période Yeltsine qui brade tout aux États-Unis, on peut rien reprocher. Poutine redonnera un second souffle au thème de la main de Moscou, élection de Trump et autres. Mais c'est une petite onde secondaire et mineure. Et donc, il faut changer la ligne. À ce moment-là, le génie de Rosanvallon, je dis pas de Lindenberg, parce que c'est pas un penseur vraiment très secondaire et pour moi insignifiant, mais qui sera l'exécuteur d'œuvres, il a son contrat, etc. Eh ben, on va dire maintenant que tous ceux qui critiquent de manière radicale le capitalisme, ce ne sont pas des partisans du goulag voulant nous faire un système léniniste, ressusciter les vieilles lunes du passé. De toute façon, qui connaît le socialisme maintenant? On va plutôt prendre la démarche de Bernard-Henri Lévy en 1981 dans l'idéologie française. Au fond, le mal, c'est pas le goulag. Le goulag, n'en parlons plus, il n'existe plus. Dans 20 ans, vous aurez une génération de jeunes, dans 20 ans, en 2018, qui ne saura même plus ce qu'est Solzhenitsyn. Soyons modernes. On va dire maintenant, parce que les jeunes, il y a une chose qu'ils connaissent, l'école leur apprend tout le temps, c'est les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. On va dire que toute critique du capitalisme est réactionnaire. Et en plus, Rosanvallon est assez intelligent pour avoir très bien compris que ce qu'on appelle le fascisme à la fin du 19e siècle, Crapez l'a très bien compris, c'est
Marc Crapez, un autre au lendemain spécialiste de sciences politiques.
Voilà. La défaite d'un côté de la Commune, son écrasement, et de l'autre la défaite de Sedan, a précipité chez une partie des communards leur ressentiment compréhensible contre la classe bourgeoise qui vient de les écraser. C'est combiné avec ce patriotisme qui est alors encore une valeur de gauche pour développer de plus en plus une perversion nationaliste de l'idéal socialiste. Sachant que, comme Orwell, j'ai toujours distingué patriotisme et nationalisme. Le patriotisme, selon la formule célèbre, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Deux choses très différentes. Et c'est toujours étonnant de voir, de Sarkozy à François Hollande, les socialistes réclamer de Jaurès pour excommunier les gens comme moi, alors que la fameuse formule de Jaurès, c'était toujours un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup l'y ramènent, hein, on n'a jamais fait mieux sur la dialectique là-dessus. Et donc, alors que il va y avoir à la fois amalgame et transfert par la fameuse réductio ad Hitlerum, hein, réduire toute position à celle d'Hitler, d'une part, on va tenir compte du fait qu'il existait forcément une extrême droite qui, elle-même, peut être dans la filiation de ce socialisme perverti. C'est-à-dire que même dans le fascisme, il y a des éléments anticapitalistes. Orwell dit dans le cas de Vigan, tout ce qui est bon dans le fascisme est déjà dans le socialisme. Ça veut dire qu'il y a un élément, l'anticapitalisme est là. On dirait la même chose des indigènes de la République. Il y a cet élément. Donc ces gens-là sont là. Et puis, on va prendre des gens dont je suis l'exemplaire, parce que l'opération va commencer dans Le Monde avec une page de Boltanski, Michéa c'est tout bête, expliquant qu'au fond, ma critique, la même que Le Monde, avant l'opération Rosanvallon, considérée comme un apport intéressant à la pensée critique, les mêmes thèses, au mot à mot, vont devenir le symbole de cette bête immonde qui nous ramène à, là la fameuse... Isabelle Garot jouera un rôle central dans cette idée, défendre le socialisme à la façon de Michéa, c'est courir après l'extrême droite, c'est sous le visage de l'anticapitalisme, la réaction et le fascisme.
Mais alors ces gens avec qui on vous a classé, avec qui Daniel Lindenberg notamment vous classe en tant que néo-réactionnaire.
Je crois pas qu'il parle de moi lui, mais c'est... Dans les écrits suivants,
alors la postérité,
je dois pas être dans le premier...
la postérité en tout cas, dans voilà. Le dernier livre
oui.
De Pierre Rosanvallon,
oui,
vous y êtes.
Oui.
Vous y êtes avec des gens comme Alain Finkielkraut, Marcel Gauchet, et Pierre Rosanvallon parle d'une nébuleuse. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette nébuleuse ?
Ben, pas du tout, c'est-à-dire, enfin, pas du tout. D'abord, je rappelle que si le combat n'est pas un affrontement binaire, les bleus contre les blancs, mais ternaire, les rouges, les bleus, les blancs au XIXe siècle, c'est qu'à un moment donné, quand un camp A attaque le camp B, il dit des choses qui peuvent trouver un écho et un appui dans le camp C. C'est toujours des alliances de contre un qui virevoltent. La droite réactionnaire et la bourgeoisie de gauche, la droite réactionnaire aristocratique et cléricale, et monarchiste et catholique, et cléricale, comme on disait, et la gauche républicaine s'entendent pour réprimer la commune, le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier socialiste s'entend avec la gauche républicaine pour éliminer le pouvoir de l'Église. Et tout ce qu'on appelait le « red tourism » en Angleterre ou en France, c'est des alliances d'Albert Demain et des socialistes, hein, la fameuse formule de Lafargue à la Chambre des députés disant « quand le chef de la droite clérical a pris la parole. Messieurs, vous venez d'entendre le plus beau discours socialiste qui ait jamais été prononcé dans cette chambre, montre qu'il y a des passerelles. Les passerelles entre l'extrême droite et le socialisme sont claires. C'est-à-dire que si l'individualisme bourgeois, c'est nous sommes des Robinson Crusoe qui s'unissent par contrat, quand le socialiste dit non, l'homme est un animal politique, social, commun, nous avons des choses communes, ça rejoint la droite qui dit la valeur de la communauté. La différence, c'est que pour la droite, la communauté doit être hiérarchisée, alors qu'elle doit être égalitaire, de façon à rendre l'émancipation individuelle la plus grande possible. Mais il y a des passerelles. À partir de là, donnez-moi n'importe quelle situation politique, et moyennant les méthodes des amalgames et de la réduction à Hitlerum, je vous fais ce que je veux. Les véganes, c'est l'extrême-gauche de l'UNEF, de Sud-Éducation. Vous voulez que je vous ressorte les textes d'Hitler en faveur du végétarisme ? Est-ce que derrière, quand l'UNEF demande qu'il y ait les repas véganes à la cantine, n'est-ce pas les tours d'Auschwitz qui se prolongent à l'horizon ? N'est-ce pas le retour au... Et je peux faire mais ce que je veux. Hitler, restons sur le bel Adolphe. Les affiches, le mot europhobe. Qui a inventé le mot europhobe qu'on entend tous les jours à France Info ? C'est la revue Signal. Ce sont les ateliers de propagande nazie qui, pour lutter contre la résistance du peuple anglais et des Serbes dans le sud de l'Europe, qui s'opposent à l'Europe nouvelle, hein, au nom d'idées nationalistes de repli sur soi. Et vous avez alors les affiches, l'avenir, le nationalisme n'est pas les frontières et tout, vive l'Europe nouvelle et combattons les europhobes. Mais attendez, moi je prends n'importe quel éditorial de Jean-Michel Apathy et je montre qu'il est dans le droit fil de Mein Kampf. Si je voulais faire du Rosanvallon ou du Lindenberg ou du Isabelle Garot, il n'y a pas une personne de l'extrême-gauche que je ne puisse pas nazifier. Sauf que moi, je ne la nazifie pas, parce que je refuse dans le débat d'utiliser des procédés abjects, qui sont ceux de la réduction à Hitlerum. Et ça, c'est un terrain fini. Avec des amis, on a toujours l'idée, on va faire un livre qui va s'appeler « Réduction à Hitlerum » et on va prendre tous les gens de gauche qui tapent sur nous et qui ont inventé cette nébuleuse, pour leur envoyer l'ascenseur, je voulais l'appeler l'arroseur arrosé, essai sur la 1, et montrer qu'il n'y a pas une personne de Besancenot à Clémentine Autain ou tout ce que vous voulez, Olivier Faure, qui ne puisse être aujourd'hui nazifié de manière intégrale.
Je voulais terminer par cette question, en oubliant d'ailleurs le débat intellectuel, où on va, d'après vous ? Jean-Claude Michéa, et nous arrivons au terme de ces cinq entretiens. Où va-t-on ? Comment envisagez-vous cet avenir ? Est-ce que finalement vous allez cultiver votre jardin, donc dans les Landes ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un sursaut possible, si l'on est d'accord avec vos analyses et avec vos aspirations ?
Où l'on va, la réponse est simple. Si la logique du capitalisme mondialisé n'est pas arrêtée, nous allons vers l'effondrement écologique. La crise financière généralisée, dont celle de 2008 n'a été que la bande-annonce, et un monde où le lien social se défait, au sens où Camus voulait qu'on empêche que le monde se défasse, nous allons vers l'iceberg. À partir de là, il est urgent que se reconstitue un mouvement international. Ça existe dans le milieu paysan, c'est Via Campesina, et qu'ils comprennent cela. Mais ce qui est très frappant, de même que j'ai dit, c'est dans la France périphérique qu'il y a le plus d'espoir de révolte. Je reviens à quelque chose, ça m'étonne d'être revenu à mon âge, à ces amours de jeunesse, mais je reviens à un certain tiers-mondisme, entre guillemets. Les travaux les plus intéressants de critique du capitalisme aujourd'hui, ils ont lieu en Inde, en Chine, en Amérique latine. Vient de mourir, je suis très triste ces jours-ci, Samir Amin, qui était ce grand marxiste égyptien, et dont j'invite le lecteur aussi à lire le dernier livre qui explique comment l'agriculture paysanne sera la base de la société future et du futur socialisme, et comment il faut stopper la logique de mondialisation en remettant de la protection et des frontières dans le cadre d'une solidarité internationale. Ce grand marxiste égyptien vient de disparaître, et au passage, en un mot, sur son idée sur l'agriculture paysanne, ça ne répond qu'à une partie de vos questions. Et pourquoi c'est un combat à mener aux côtés de la coopération paysanne, de Via Campesina, etc. Si vous lisez les textes de Claude et Lydia Bourguignon, ce sont les deux grands spécialistes de la microbiologie des sols, et vous les connaissez sans doute à travers le film de Colin Serrault, « Solution locale pour un désordre global ». Ils disent « Planète limitée, dynamique exponentielle, le problème de l'objet industriel, cette bouteille, ce micro, c'est qu'il a fallu plus d'intrants qu'à la sortie. Il faut, pour faire cette voiture électrique ou cet ordinateur, quelques milliers de tonnes d'eau, des minerais rares et autres. Le principe de l'agriculture, vous plantez cette graine et vous aurez 100 pour 1. Alors que dans l'industrie, il faut 100 pour 1. Si vous comprenez que la planète est soumise à ce développement exponentiel et que ses ressources sont limitées, une chose est sûre, c'est que le post-capitaliste de demain aura retrouvé quelque chose de ce qu'était l'agriculture paysanne.
Merci beaucoup, Jean-Claude Michéa.
Fin de cette rencontre de Guillaume Erner avec Jean-Claude Michéa. À voix nue, réalisation Gaël Gillon, prise de son Philippe Mercher, Julien Douminc, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.